Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour depuis le lieu unique à Nantes pour la 10e édition des Géopolitiques de Nantes, rendez-vous annuel co-organisé par l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques et Nantes Métropole. Regard sur le Brésil à quelques jours de l'élection présidentielle du 2 octobre, une campagne électorale tendue dans un pays polarisé entre les partisans de Lula et ceux du président sortant Jair Bolsonaro. Les attaques parfois très violentes entre les militants ont été nombreuses, instaurant un climat ressemblant étrangement aux États-Unis. Les sondages donnent l'ancien président Lula largement en tête et la question se pose de savoir s'il ne serait pas en mesure de l'emporter dès le premier tour. Président d'extrême droite, Jair Bolsonaro pâtit notamment de sa mauvaise gestion de la pandémie. Son programme d'aide aux plus démunis renforcé au cours des derniers mois n'a pas suffi à combler la distance qui le sépare de Lula. Président de 2003 à 2010, s'est libéré de prison en 2019 après un peu moins de 2 ans de détention pour corruption passive. Lula prépare son retour en cette année 2022 du bicentenaire de l'indépendance du pays le plus vaste et le plus peuplé d'Amérique latine. Bolsonaro conserve le soutien de forces très puissantes au Brésil, notamment évangéliques, nous en parlerons. Espace le plus inégalitaire de la région, le pays avec ses 213 millions d'habitants est extrêmement polarisé et traverse une profonde crise politique, économique et sociale dans un climat de haine politique. Regard sur les enjeux et les perspectives de cette élection présidentielle sous tension. Nos invités, Juliette Dumont, maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine, Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 et chercheuse au CREDA. Bonjour.
Bonjour.
Lamia Walalou, journaliste spécialiste de l'Amérique latine. Bonjour.
Bonjour.
Alain Rouquier, président de la Maison de l'Amérique latine et ancien ambassadeur de France. Bonjour.
Bonjour.
Et Christophe Ventura, directeur de recherche à l'IRIS, en charge du programme Amérique latine et Caraïbes. Bonjour.
Bonjour.
Alors bien sûr, on va parler de la campagne de Jair Bolsonaro et de Lula. Lula dont la stratégie consiste à effacer d'une certaine manière son positionnement de gauche pour pouvoir incarner le candidat des gens raisonnables face à Bolsonaro. Et dans ce but, il a nommé comme candidat à la vice-présidence Geraldo Alckmin, qui avait représenté le centre-droit lors des élections présidentielles de 2006 et de 2018. La question qui va se poser est de savoir si c'est une stratégie efficace, s'il parvient au pouvoir ou quel risque cette stratégie peut comporter. L'une des particularités de cette campagne, c'est aussi qu'aucun autre candidat, en dehors du duel évoqué en introduction, n'est parvenu à émerger. Le grand parti d'opposition à la dictature militaire des années 70-80, le PSDB, a renoncé à présenter un candidat. Alors, je l'ai dit en introduction, la campagne est une campagne très violente. Qu'est-ce que l'on peut dire du rapport de force actuellement en présence ? Sur quoi Bolsonaro fait-il campagne ? Et comment expliquer que Lula soit toujours aussi populaire qu'il y a 10 ans ? Qui souhaite se lancer ? Alain Rouquier.
Non, je dois me lancer tout à fait là-dessus, mais je voudrais dire mon sentiment sur cette campagne électorale. Ça va dans le sens des questions que vous posez. C'est une campagne électorale passéiste, marquée par la nostalgie. D'abord, il n'y a pas de renouvellement des candidatures, on trouve toujours les mêmes. Et c'est grave pour le PT, surtout parce que le PT est le seul parti politique réellement structuré et existant au Brésil. Les autres ont disparu, le fameux PSDB, il n'est plus là. Celui qui a permis pendant 8 ans à Cardoso de faire des réformes qui ont été ensuite accompagnées et approfondies par Lula et le PT, ça n'existe plus. Et d'ailleurs, une partie du PSDB avec Alckmin est derrière Lula. Par ailleurs, les programmes, on n'en voit pas. Que dit Lula ? Je ferai mieux encore que la dernière fois, ça sera pareil, vous serez heureux comme à l'époque du boom des matières premières, c'est pas évident. Et puis Bolsonaro, c'est le communisme demain, comme si du jour au lendemain, Lula allait se convertir en communiste alors qu'il a été pendant 8 ans au pouvoir, il n'allait pas faire la révolution. Il va fermer les églises alors qu'il est catholique, il vient de se remarier à l'église. Il va faire des choses absolument horribles, mais moi je n'ai pas de programme sinon de dénoncer ce qui va se passer. Ça, c'est quand même terrible que dans un pays aussi important, 7e puissance mondiale, il y ait des élections dans lesquelles personne n'a de programme, sinon jeter l'anathème sur les uns et les autres et rappeler ce qu'on a pu faire dans le passé. Alors, pour Bolsonaro, c'est simple, c'est la nostalgie de la dictature militaire. Je ne suis pas sûr que ça enthousiasme, sinon les problèmes de sécurité, il y avait plus de sécurité certainement à l'époque de la dictature militaire, mais je ne suis pas sûr que ça enthousiasme les jeunes générations. Je trouve que là, il y a une situation qui est à même de démobiliser beaucoup d'électeurs, et c'est vrai que pour le moment, et je pense jusqu'à la fin, Lula a le vent en poupe, mais c'est parce que, un peu à défaut d'une autre offre politique. Il n'y a pas d'autre offre politique dont le choix est entre celui qu'on a présenté comme le criminel absolu, parce que quand on a parlé de la corruption a traversé tout le spectre politique brésilien, mais pour permettre la destitution de Dilma, puis l'arrivée au pouvoir de Bolsonaro, il y a eu une campagne criminalisant le PT. Donc le problème du PT, pour le moment, c'est de faire oublier ça, de faire oublier la Vajato et Odebrecht, et puis dire, eh ben, vous étiez heureux autrefois, vous étiez heureux dans mes deux présidences, eh bien, on va recommencer. Ça, je trouve que c'est un peu court. Voilà tout ce que je voulais dire comme introduction.
Merci Alain Rouquier, je vais faire circuler la parole. Bien sûr, Lamia Ouallalou, votre commentaire sur déjà ce qu'a dit Alain Rouquier, une campagne très, très passéiste sur le plan politique, on l'a compris, mais en revanche d'une violence assez extrême et qui apporte la preuve, si besoin en était, d'une polarisation du Brésil aujourd'hui.
Oui, je pense que c'est une campagne qui est très marquée par deux éléments en particulier. Je suis totalement d'accord avec Alain sur la question passéiste, mais sur le retour de la faim au Brésil. C'est un pays qui a toujours été très inégal, ça n'est plus inégal au monde d'ailleurs. Mais en 2014, le Brésil avait disparu de la carte de la faim de l'Organisation des Nations Unies. Aujourd'hui, plus de 50 millions de Brésiliens ont faim tous les jours. Et donc ça, c'est très très important. Je voudrais raconter une petite anecdote. C'est un enfant dans la banlieue de Belo Horizonte, une grande ville du Brésil, qui a un soir appelé la police. Et tout est enregistré quand on appelle la police. Et de l'autre côté, on lui a dit « qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'urgence ?» Il a dit « l'urgence, c'est qu'on est 6 à la maison et ma mère n'a plus rien à nous donner à manger depuis 5 jours. » Et le Brésil, c'est un pays extrêmement connecté. Cette vidéo a fait le tour du Brésil parce que ça rentrait vraiment en résonance avec la souffrance au jour le jour de toutes ces personnes-là. Et l'autre élément sur lequel je voulais revenir, c'est la peur. Le Brésil est un pays où la peur n'a jamais été aussi présente qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, 7 Brésiliens sur 10 disent avoir peur. Ils ont peur du quotidien, ils ont peur de la violence, alors que malgré le fait qu'elle a baissé au jour le jour, ils ont même peur de dire ce qu'ils pensent politiquement. Ils ont peur de dire pour qui ils vont voter, parce qu'il y a énormément d'agressions, en particulier de la part des bolsonaristes. Et on ne sait pas quel impact va avoir cette peur au niveau de l'élection. C'est-à-dire, est-ce que, d'une part, des gens ne veulent pas dire pour qui ils votent, et également, est-ce qu'ils ne vont pas tout simplement ne pas aller voter? Bon, le vote est obligatoire au Brésil, mais quand on est très pauvre, ce n'est pas très grave parce que c'est des amendes, que de toute façon, quand on n'a rien, ce n'est pas très grave. Donc, c'est une élection qui est très marquée par tous ces éléments-là.
Alors, retour de la fin, la question qui se pose est de savoir si c'est une conséquence du Covid ou c'est inhérent à la politique de Bolsonaro. Peut-être on aura l'occasion d'y revenir. Christophe Ventura, votre commentaire à vous sur la campagne et les rapports de force aujourd'hui
Je crois que tout ce qui commence à être décrit nous indique ce qu'on doit, à mon avis, retenir de cette élection, de son contexte, c'est qu'elle intervient dans un pays qui connaît une crise multiforme, qui est un pays qui est une démocratie dysfonctionnelle depuis pas l'élection de Bolsonaro. Au fond, cette dernière, en 2018, dans des conditions aussi assez particulières, on s'en souvient peut-être, puisque Lula en avait été éliminé judiciairement de cette élection, l'élection de Bolsonaro n'était qu'un développement nouveau de cette crise qui, en fait, court au Brésil depuis au moins 2016. Et l'éviction fort controversée de l'ancienne présidente Dilma Rousseff. C'est une démocratie dysfonctionnelle dans laquelle les institutions ont eu de cesse, depuis ces dernières années, d'entrer en conflit, des affrontements entre l'exécutif, le législatif, le judiciaire, un rôle des médias aussi assez particulier. Bref, ce pays est en crise et je crois que c'est un des clivages qu'essaye de mettre en place d'ailleurs Lula dans cette campagne, c'est finalement d'incarner ou de construire un camp qui permette le retour d'une démocratie normale dans ce pays et de tourner la page de Bolsonaro serait finalement la manière de parvenir à resituer le Brésil dans un fonctionnement démocratique, dans un système qui retrouverait des équilibres et des consensus, en fait, au niveau de l'ensemble des secteurs brésiliens. En tout cas, c'est un peu ça le récit qu'essaye de construire Lula autour de sa campagne. Et face à lui, Bolsonaro, ça a été dit, agite évidemment le souvenir de l'ordre hein, comme solution à tous les problèmes. Et il considère, lui, aujourd'hui, qu'il a des résultats en la matière. Il faut avoir ça en tête aussi. Il arrive dans cette campagne avec un bilan que lui considère plutôt pas mauvais. D'ailleurs, il l'a exposé aux Nations Unies, considérant que c'était le plein rétablissement de l'économie brésilienne, de la sécurité, etc., etc. Donc, je crois qu'il faut avoir en tête, et ça explique une partie de votre introduction, Marie-France, sur la violence et le climat. On est dans un pays excessivement polarisé où la violence politique fait partie des usages et des comportements militants aujourd'hui, parce que précisément les institutions sont dysfonctionnelles et les conflits, les désaccords, les divergences politiques désormais ne trouvent plus de solution au Brésil dans le cadre de cette démocratie-là. Et c'est ça qui explique aussi une partie de la radicalisation dans laquelle ce pays est plongé aujourd'hui et qui va, disons, se prolonger jusqu'à l'élection. Hein. On n'est pas encore au 2 octobre. Il peut encore arriver des choses. Ça fait partie des scénarios qu'on doit avoir en tête.
Vous écoutez RFI, Géopolitique.
Alors, je me tourne vers vous, Juliette Dumont. Pas de programme. Finalement, le programme de Lula, c'est, et ça a été évoqué à l'instant par Christophe Ventura, c'est contrer Bolsonaro. Bolsonaro, dont on avait dit, on s'était posé la question au moment de son élection. En 2018, il a pris possession des manettes, pour ainsi dire, en janvier 2019. On ne lui donnait pas de longévité à Bolsonaro et il a tout de même tenu.
Le personnage de Bolsonaro est tellement caricatural, tellement... Enfin, à la Trump aussi, on a parlé de Bolsonaro quand il a été élu comme le Trump tropical, une sorte de version encore plus ridicule, notamment physiquement. Et je pense que tant au Brésil qu'à l'extérieur, on a un petit peu minimisé le fait que Bolsonaro n'est que le symptôme de quelque chose de plus lourd et de plus profond. Et ces 4 années de gouvernement Bolsonaro représentent un affaiblissement de la démocratie, une brutalisation de la vie politique, mais j'irais même au-delà, je parlerais d'une fascisation en fait, de la politique brésilienne. Et on peut dire que Bolsonaro, effectivement, en termes de programme politique tel qu'on l'entend dans une démocratie libérale traditionnelle, on va dire, on a l'impression qu'il n'y a pas de programme. Mais il y a une vraie vision de la société et de ce qu'elle doit être. Contrairement au camp adverse qu'incarne Lula, donc, comme l'a dit Alain Rouquier, il y a cette idée qu'on va revenir à la normale, à un fonctionnement normal, ce qui serait déjà très très bien. Mais le seul projet, c'est soyons heureux à nouveau et on va revenir aux années dorées du début du XXe siècle. Il n'y a pas de projet d'avenir. Chez Bolsonaro, donc, il y a cette nostalgie de la dictature, mais avec des points quand même très différents par rapport à la dictature, puisque les militaires brésiliens qui étaient au pouvoir dans les années, des années 60, au début des années 80, étaient notamment, enfin, le rôle de l'État dans l'économie était très important, alors que Bolsonaro et son gouvernement mènent une politique économique profondément néolibérale, ce qui s'est traduit par toute une série de privatisations d'entreprises nationales. Donc là, on a une grande différence avec la dictature militaire. Et si je parle de fascisation et du fait qu'il ne faut pas sous-estimer le bolsonarisme en tant que projet politique et vision de la société, c'est qu'il y a un véritable discours de régénération du corps national avec la désignation d'un adversaire qui n'est plus un adversaire politique mais un ennemi qui met en péril la cohésion et l'identité de la nation brésilienne, une identité qui serait fixée notamment par un certain nombre de valeurs morales. Et Bolsonaro est à la fois ce candidat avec un gouvernement qui cadre très bien avec un néolibéralisme que l'on observe un petit peu partout, et la défense de valeurs morales très strictes, notamment la défense de la famille traditionnelle, la référence à Dieu. Donc ce mélange de fausses subversions avec les prises de parole où il est grossier, où il attaque, où il se met en scène comme candidat et comme président anti-système, et en même temps un candidat et un président ultra-conservateur qui, ce double discours, lui permet de séduire dans toutes les classes sociales, même si les intérêts de ces classes sociales peuvent être différents. C'est-à-dire que ceux qui votent Bolsonaro, on les trouve chez les catégories les plus aisées du Brésil, dans les classes moyennes et dans les classes populaires. Et ce qu'est en train d'essayer de faire Lula, avec beaucoup de difficultés, le ticket de vice-président avec Alckmin, c'est un petit peu le mariage de la carpe et du lapin. Lula essaye de reconquérir ou de capitaliser sur son image de président des pauvres, issu du Nord-Est, ancien métallurgiste. Vous me demandiez tout à l'heure pourquoi il a encore cette popularité, de par son parcours. Voilà, il a un fort ancrage dans les classes populaires, mais des classes populaires qui, dans leur majorité, ont voté Bolsonaro en 2018. Donc, il y a cet effort de Lula, et en même temps, il va essayer aussi de chercher des soutiens chez les classes les plus aisées, notamment les acteurs économiques les plus importants, et dans les classes moyennes qui se sont senties, pendant les présidences du PT, quelque part délaissées. Les présidences du PT, elles ont été très bien pour les très riches et pour les très pauvres. Et ces classes moyennes se sont senties un petit peu déclassées, justement. Donc, je pense qu'il faut revenir un petit peu plus et ne pas se contenter de dire que le Bolsonaro, le bolsonarisme, c'est de la violence politique, ça l'est, mais il y a une vraie vision de la société, alors que de l'autre côté, c'est, on va dire, une coalition opportuniste pour renverser Bolsonaro. C'est déjà un but en soi et c'est un but très important. Mais est-ce que ça va suffire ? Ça va suffire sans doute à faire en sorte que Bolsonaro ne soit plus président, mais l'après sera sans doute difficile.
Alors, vision de la société, malheureusement, il nous reste 4 minutes avant la fin de cette première partie d'émission. Il y a beaucoup de sujets qui mériteront, peut-être on le fera dans la deuxième partie, d'être développés. Vous parliez de la famille traditionnelle, les appuis importants que Bolsonaro trouve dans l'église évangélique. Il y a aussi la question de l'armée. Vous avez fait la comparaison avec Trump, et c'est vrai qu'il y a un climat où on se pose aujourd'hui la question de savoir si Lula l'emporte, eh bien, que fera Bolsonaro ? Est-ce qu'il a dit qu'il accepterait le verdict des urnes, mais tout de même, et s'il y a ses partisans contestent, bref, on ne va pas anticiper sur la situation, mais la question mérite d'être posée. Lula, tout de même, l'emporte dans les sondages aujourd'hui. Les déçus du bolsonarisme ou les déçus de Bolsonaro aujourd'hui, qui sont-ils ? Qui souhaite répondre et qui peut nous expliquer cela rapidement ? Alain Rouquier.
Je veux bien dire deux mots là-dessus, parce que en partant de ce qui était pour le bolsonarisme au départ. Et au départ, il y avait évidemment les grandes entreprises, je dirais la FIESP, la Fédération de l'industrie de São Paulo. Mais le bolsonarisme, c'est à la fois un néolibéralisme ultra, un moralisme plus ou moins chrétien opportuniste, et c'est un anti-étatisme. Et anti-étatisme, ça dit quelque chose aux militaires. Les militaires sont étatistes, et ça ne va pas du tout dans le sens de ce qu'ils souhaitent, que le pays soit gouverné par des néolibéraux et que les capacités de contrôle de l'État, que ce soit sur l'Amazonie ou sur l'écologie ou dans d'autres domaines, soient diminuées, réduites ou marginalisées. Ça ne va pas du tout avec ce que pensent et ce qu'ont fait toujours les militaires. D'autres points. Les militaires avaient quand même des relations très bonnes avec Lula. Lula a augmenté les budgets, a augmenté les soldes, a rééquipé l'armée, et ça, c'était le pouvoir de l'État. Et Lula, le PT, sauf à l'époque d'Ilma, c'était une époque de décadence de gouvernement du PT, comme les militaires de l'époque Medici et puis Geisel, etc., tenaient à justifier leur pouvoir par l'existence d'un projet national. Bolsonaro n'a pas de projet national. Il a peut-être une vague moralité, il a peut-être une façon de caresser les évangélistes dans le sens du poil, mais il n'a pas de projet national. Et là, c'est quelque chose de tout à fait important dans la relation Bolsonaro et les militaires et la relation de Lula avec les militaires. Je voudrais dire ça en réponse à votre question.
Christophe Ventura.
Oui, en rebond et sur la question de qui sont les électeurs et les déçus donc, du bolsonarisme en 2022. Grosso modo et schématiquement, en 2018, il faut se rappeler que l'électorat de Bolsonaro, c'est d'abord l'électorat de la droite et du centre-droit brésilien qui, en quelque sorte, sont recomposés dans le vote pour Bolsonaro. Quand on regarde les cartes électorales, c'est très clair en 2018. En gros, le vote très largement du PMDB et du PSDB s'est reporté sur Bolsonaro. C'est d'abord une dynamique de recomposition, disons, radicale de l'électorat de droite, mais aussi parce que les partis de la droite brésilienne se sont ralliés à Bolsonaro en 2018. Ils ont fait tout sauf le Parti des Travailleurs. Donc, ils avaient appelé à se rallier à Bolsonaro au deuxième tour. Donc, c'est logique. Et puis, il a rajouté à cela, en 2018 toujours, et c'est là où il a fait la différence, il avait rajouté une fraction assez importante de l'électorat, non pas du PT forcément, mais de Lula, surtout dans le nord-est du Brésil, qui là avait voté pour Bolsonaro. Aujourd'hui, cette carte est en train de rechanger et c'est ce qu'on va voir le 2 octobre.
On vous retrouve, Christophe Ventura, avec Lamia Ouallalou, Alain Rouquier, Juliette Dumont. Après le journal, à tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique depuis le lieu unique à Nantes où se tient la 10e édition des Géopolitiques de Nantes. Regard sur le Brésil à quelques jours de l'élection présidentielle du 2 octobre. Nous retrouvons nos invités Juliette Dumont, maîtresse de conférence en histoire contemporaine à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine, Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 et chercheuse au CREDA. Également Lamia Oualalou, journaliste spécialiste de l'Amérique latine, Alain Rouquier, président de la Maison de l'Amérique latine à Paris, ancien ambassadeur de France, et Christophe Ventura, directeur de recherche à l'IRIS en charge du programme Amérique latine et Caraïbes. On a terminé la première partie de l'émission en redonnant finalement ce rapport de force plutôt favorable à Lula à une semaine de l'élection présidentielle et se poser la question de savoir qui étaient finalement les déçus aujourd'hui de Jair Bolsonaro. Lamia Oualalou, vous souhaitiez rajouter quelque chose d'important, c'est le vote féminin.
Oui, exactement. On ne sait pas encore si les Brésiliens vont donner la victoire le 2 octobre, enfin au premier tour à Lula, mais les Brésiliennes, on sait que c'est le cas parce que très très loin, elles votent Lula. Il y a 10 points à peu près de différence entre les femmes et les hommes. Alors, ça s'explique par beaucoup d'éléments. Bien sûr, la misogynie légendaire de Jair Bolsonaro, qui insulte tout le temps les femmes, les renvoie à un rôle totalement subalterne, les attaque éventuellement, les menaçant de viol et autres. Mais il y a un autre élément qui est très important, qu'on oublie en particulier dans les classes populaires, c'est la montée en puissance des armes au Brésil. C'est-à-dire avec Bolsonaro, il y a eu une facilité à acheter des armes beaucoup plus importante qu'auparavant. C'était difficile au Brésil auparavant d'avoir des armes. Et ça, les femmes pauvres, mères de famille qui sont souvent seules au Brésil, elles en ont peur parce qu'elles perdent leurs fils, plusieurs de leurs fils là-dedans. Et donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles il y a une détestation en fait envers Bolsonaro. Et c'est vrai que Bolsonaro a une image de la société, comme disait Juliette, fascisante et qui fonctionne à tous les niveaux. Mais ça fonctionne quand même beaucoup plus chez les plus riches que chez les plus pauvres. Quand on regarde les plus pauvres, Lula est très 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 devant Bolsonaro. Bolsonaro, justement, s'il a encore aujourd'hui, malgré 700 000 morts de la pandémie, malgré une explosion de la faim, malgré une explosion du chômage, malgré le fait que le Brésil n'est plus sur la carte internationale, une image positive auprès de 30% des Brésiliens, c'est quand même fou. 30% aujourd'hui disent que c'est un bon gouvernement. Donc c'est parce qu'il incarne une rupture dans laquelle se retrouvent les Brésiliens déclassés, en fait. Donc effectivement, il est parti de la classe moyenne blanche. Donc c'est pour ça qu'il est très très fort dans le sud du Brésil, alors que dans le nord, qui est la région noire, c'est Lula de très très loin. C'est le fait que tout d'un coup, dans les années Lula, il a fallu payer des droits aux femmes de ménage. Et donc tout d'un coup, on a dû se passer de femmes de ménage. Quel scandale dans la classe moyenne. C'est le fait que les noirs ont pu aller à l'université. Et donc tout d'un coup, on s'est retrouvé avec le fils du concierge à l'université. Quel scandale, en fait. Donc là, on est vraiment dans une lutte de classe, dans ce qui est de plus violent aujourd'hui.
Alain Rouquier, je sais que vous souhaitez rajouter quelque chose. Après ça, je me tournerai vers vous, Juliette Dumont. Alain Rouquier.
Non, je voudrais ajouter à ce que vient de dire Lamia, qu'il y a un secteur très important qui a appuyé Bolsonaro, comme il avait appuyé le coup d'État parlementaire contre Dilma, il faut l'appeler par son nom, c'est le secteur du grand business, des grandes entreprises brésiliennes. Bolsonaro les a perdues. Pourquoi ? Eh bien, parce que Bolsonaro, en 4 ans, a gommé 16 ans de promotion internationale du Brésil, 16 ans de confiance internationale dans le Brésil. Fernando Henrique Cardoso, 8 ans, Lula, 8 ans. Et ça, c'est fini. Le Brésil connaît une éclipse internationale, qui est aussi l'éclipse de l'Amérique latine, parce qu'il est au centre de l'Amérique latine et de l'Amérique du Sud, et toutes les tentatives d'intégration sans le Brésil, ça ne marche pas. Et les grandes entreprises n'acceptent pas que le pays devienne un paria, isolé, parce que c'est mauvais pour le commerce, parce que c'est mauvais pour les investissements, et que ça ne peut plus durer. Et qu'ils aspirent à avoir quelque chose comme Lula et Lumine, PT, PSDB, quelque chose de centriste, et c'est ce que Lula est en train d'essayer de mettre en place, avec une partie du PSDB, qui a toujours été l'ennemi, ou devint l'adversaire de Lula, et puis le PSDB a disparu, et maintenant il y a cette possibilité. D'ailleurs, Lula refait ce qu'il a fait en 2002. En 2002, il avait un candidat à la vice-présidence qui était moins connu qu'Almin, mais qui était un homme d'affaires, qui avait l'oreille des hommes d'affaires. Et là, il a l'oreille des hommes d'affaires grâce à Alcmin, grâce à la FIES, parce que Alcmin a été gouverneur de São Paulo et la Fédération des industries de São Paulo, c'est ce qui compte. Et ceux-là, la plupart, ont pris leur distance vis-à-vis de Bolsonaro parce qu'ils ne veulent pas perdre.
Sauf l'agro-business.
Oui, sauf l'agro-business, c'est ce que j'allais dire.
Non, je ne parle pas de l'agro-business. Alors, si vous reprenez les B, on dit qu'est-ce qui a voté pour Bolsonaro ? Il y avait les balles, les militaires. La Bible, les évangéliques, les bœufs, l'agro-business, et le business industriel. Le business industriel, ils l'ont perdu, et c'est important.
Alors, il faut dire que, mais on n'a pas le temps de revenir dessus, mais je le mentionne simplement pour dire que Lula, sous sa présidence, avait vraiment fait et donné au Brésil une place à l'international qui était tout à fait exceptionnelle. Bien sûr. Juste, j'aimerais qu'on poursuive sur un autre registre avec vous, Juliette Dumont. Il y a encore deux questions, beaucoup d'autres aussi. La place du Brésil dans son environnement régional, s'il nous reste du temps. La question du fait religieux, du facteur religieux dans la présidentielle. Je sais que la Mia Walalou, spécialiste du vote évangélique. On a vu sous la présidence de Jair Bolsonaro, je parle sous votre contrôle à chacun, les églises évangéliques atteindre une capacité et une influence sur l'exécutif fédéral et la vie politique qu'elles n'avaient jamais eue jusqu'alors. Et aux côtés du monde militaire, elles constituent le deuxième vivier de recrutement des membres de l'équipe gouvernementale. Quelle place pour le vote évangélique ? Et c'est peut-être lié aussi à la question des femmes qu'évoquait à l'instant Lamia Walalou. Voilà, quelle place pour le facteur religieux dans ce scrutin ? Et puis, j'aimerais qu'on parle aussi de l'armée, sans parler de scénario catastrophe, mais tout de même, si jamais Lula l'emportait, que vont faire les partisans de Bolsonaro ? Est-ce qu'il y a risque d'insurrection ? Et auquel cas, que va faire l'armée ? Juliette Dumont.
Alors, sur le facteur religieux, il est évidemment capital d'en parler et central dans la vie politique brésilienne, bien plus qu'il n'a pu l'être. Enfin, ça a été quelque chose qui est allé croissant depuis les années 2000. Mais ce que l'on observe, c'est que autant il y avait une quasi-unanimité des églises évangéliques dans l'appel à voter Bolsonaro en 2018, cette unanimité n'est plus aussi présente en 2022. Pour deux raisons que Christophe Ventura et Lamia Walalou ont évoquées. D'une part, c'est le fait qu'il y a beaucoup de membres de ces églises évangéliques qui sont issus des classes populaires et très populaires et qui ont vu leurs conditions de vie se dégrader, notamment ces deux dernières années, sous l'effet d'une crise économique qui dure depuis 2013 et de la pandémie, touchant notamment le travail informel, avec toute une série de protections qui avaient été mises en place sous les gouvernements du PT et qui ont été coupées sous le gouvernement Bolsonaro. Donc première chose, c'est le fait que ces classes populaires très impactées par la pandémie, par l'inflation, par la faim, sont évangéliques souvent, mais ne vont plus forcément voter Bolsonaro. Et ce que notait Lamia, c'est le vote des femmes. Non seulement il y a cette misogynie, mais il y a aussi, en temps de pandémie, généralement, c'est une distribution très genrée de la prise en compte du soin et les discours de Bolsonaro disant « bon, bah, y a des morts, c'est comme ça, de toute façon, on va tous mourir un jour, c'est une grippette, etc. etc. » C'est quelque chose qui a rencontré de l'écho chez ses partisans, et surtout chez les hommes, mais les femmes qui étaient en première ligne, elles ont un petit peu plus tiqué à ce type de discours. Là où Bolsonaro continue à rester populaire chez les femmes comme dans les classes populaires et chez les évangéliques, c'est la pauta, l'agenda moral, et notamment le discours anti-avortement, sur la famille, etc. Est-ce que je réponds aussi sur le risque d'insurrection ?
Non, peut-être que j'ai proposé à Lamia Walalou de redire quelques mots sur la question évangélique, si elle le souhaite, et je passe
oui,
la parole.
Oui, très rapidement, pour qu'on puisse passer aux autres sujets. La question populaire fait que l'appui est rogné. Reste qu'aujourd'hui, 44% des évangéliques vont voter, donc ça veut dire la majorité, quand on compte les voix au final, vont voter pour Bolsonaro, et ça c'est dû d'une part au fait que les questions morales, donc l'avortement, l'homosexualité, la famille, ont pris beaucoup de poids, mais aussi au fait que Bolsonaro est allié aux grandes églises évangéliques qui ont elles-mêmes un énorme réseau médiatique, donc on n'aura pas le temps de l'évoquer, mais le rôle des médias dans cette élection, comme dans toutes les élections, est très important, et le rôle des fake news et le travail de très très bonne qualité que fait Bolsonaro sur les réseaux sociaux. Encore une fois, c'est le pays le plus connecté du monde, le Brésil. Donc par exemple, une des choses que doit faire aujourd'hui Lula, avant même d'essayer de convaincre les évangéliques, c'est de ramer contre la fake news qui est qu'il va fermer toutes les églises évangéliques. Donc ça a été répandu partout et beaucoup de gens le croient. Donc, et l'autre problème, c'est que pendant très longtemps, le Parti des travailleurs de Lula ne s'est pas du tout intéressé à cette population, d'une part parce qu'il était très lié aux catholiques et d'autre part par absence d'intérêt tout simplement. Et donc là aussi on rame, même si maintenant on commence à voir émerger des leaders populaires évangéliques de gauche, mais encore une fois ça reste essentiellement un vote à droite. Ce qui va aider en fait Lula, c'est son vice-président, son candidat vice-président, Geraldo Alckmin, qui n'est pas évangélique mais qui est catholique, mais qui est vraiment, en plus il est Opus Dei, donc il est vraiment le garant de la famille, de toutes ces valeurs-là. Donc ça c'est capital. C'est pas seulement pour des questions d'accord politique et pour le grand business, c'est aussi pour avoir cette image-là qu'il est capital de ce point de vue-là.
Vous écoutez RFI, Marie-France Chatin.
Alors l'armée, alors on peut juste préciser que Jair Bolsonaro, dans son ticket présidentiel, s'est bien préoccupé de placer un général à ses côtés, Christophe Ventura. L'armée, alors éventuel putsch ou en tout cas insurrection au lendemain de l'élection avec les partisans de Jair Bolsonaro qui descendent dans la rue avec des armes, comme l'évoquait l'ami Awalalou, que va faire l'armée ? Que peut-on penser que l'armée ferait ?
Alors, violence politique, agitation, prise d'insurrection localisée de militants armés, etc., ce qui est déjà beaucoup, hein, on en conviendra. Oui, ça, je pense que c'est un scénario, une hypothèse en tout cas, qu'il faut prendre au sérieux, puisque c'est la stratégie de Bolsonaro, et il faudra rajouter même de ses fils, hein, qui ne sont pas les derniers en la matière à l'aider sur ce terrain-là. Bon, en gros, le système, c'est il ne demande rien. Il suffit simplement de créer un discours qui crée un climat permissif. Hein. Et en fait, on dira, ben, moi, j'ai rien fait, j'ai rien demandé, j'ai jamais dit qu'il fallait pas ne pas reconnaître les résultats. Même je peux dire aujourd'hui, comme fait Bolsonaro, si je perds, je quitte la politique, puisque c'est ce qu'il vient de dire cette semaine. Mais c'est pas grave. Une fois que vous avez créé le discours, ça permet des actes un peu autonomes de se déployer et qui peuvent créer effectivement des choses très graves et qui viendront parasiter, infecter finalement le résultat de cette élection et surtout la suite. Ça oui, coup d'État, putsch militaire, etc. Alors, c'est mon point de vue perso. Non, je n'y crois pas du tout. Je vais vous dire pour une raison simple. Pourquoi faire ? Les militaires sont déjà largement au pouvoir aujourd'hui déjà au Brésil, d'une part. Avec Bolsonaro, vous avez un tiers du gouvernement et des ministres qui sont des militaires, et pas que sur les questions militaires. Ils sont dans l'économie, le commerce, la protection de l'environnement, l'Amazonie, les mines. Enfin, ils ont la haute main sur quantité de choses. Pour ne pas parler des militaires qui peuplent tous les ministères et les administrations de l'État fédéral, mais aussi des pouvoirs des États qui composent le Brésil, etc. Donc non, ça je crois pas, ils ont déjà largement beaucoup de pouvoir. Et puis, ils peuvent avoir soutenu Bolsonaro avec cette idée d'un gouvernement, d'un président de l'ordre qui allait éradiquer la gauche brésilienne, etc. Ça peut-être oui, mais ils sont pas, je crois pas, enfin d'autres nous diront ce qu'ils en pensent, mais sur une ligne d'un coup d'État ou d'un renversement pour aller dans une dictature militaire, je crois pas du tout à ça. C'est pas le souhait des élites financières et économiques brésiliennes, ça a été évoqué tout à l'heure, celles dont je rappelle qu'elles ont rallié Bolsonaro en 2018, mais qu'elles ont quitté aujourd'hui pour rejoindre Lula pour défaire Bolsonaro. Donc c'est ça la position des élites de Sao Paulo dont on a parlé. Il n'y a jamais de coup d'État ou militaire sans qu'il y ait un appui ou un relais de puissance étrangère, en particulier de Washington en ce qui concerne l'Amérique latine. Je pense qu'Alain Rouquier va nous en parler. Ce n'est pas du tout la stratégie aujourd'hui de l'administration Biden que d'appuyer au Brésil un coup d'État. D'ailleurs, les déclarations du département d'État qui a dit « mais non, le système électoral brésilien est très performant, il marche très bien », c'est un désaveu justement de la stratégie de Bolsonaro. Donc non, je ne crois pas ça. La question, après, c'est pour moi le point important, c'est plutôt si Lula gagne et revient au pouvoir, c'est quoi la relation de Lula avec les militaires ? Voilà, c'est à mon avis plutôt ça. Est-ce que, je le dis de manière un peu triviale, où est-ce qu'il va avoir le droit de s'asseoir à la table, Lula, avec les militaires ? Et qu'est-ce qu'il va devoir négocier ? Est-ce qu'il va devoir leur laisser du pouvoir, l'agrandir, etc. etc.
Alain Rouquier, vous avez la réponse ?
Bien, Bolsonaro, depuis qu'il était un obscur député. À la faire de député, a toujours été le député des militaires. Ça ne veut pas dire que l'armée soit l'armée de Bolsonaro. L'armée n'est pas l'armée de Bolsonaro. Elle est institutionnelle. Il a tout fait pour apparaître comme l'homme des militaires. Il défendait les militaires à l'Assemblée sur leur solde, le budget, etc. Et puis, bon, il a été élu. Il est capitaine. Vous voyez des généraux, 3 étoiles, 4 étoiles, je ne sais plus combien, qui obéissent à un capitaine. Ils obéissent au capitaine parce qu'il est élu, parce qu'il est président selon la Constitution. S'il sort de la Constitution, il n'est plus rien. C'était un capitaine, c'était un mauvais officier qui a été mis en marge de l'armée. Alors, il a mis des généraux, des colonels, des dizaines, des centaines de milliers, je ne sais plus combien, dans le pouvoir, dans les ministères. Quand il a remplacé un militaire, un général au ministère de la Santé, il l'a remplacé par un autre général pour que... Bon, mais là, les généraux, ils sont divisés. Ces généraux, c'était souvent des généraux à la retraite, des généraux du cadre inactif. Il est évident que ça ne va pas aller très, très loin, d'autant qu'au-dessous, il y a des militaires qui sont dans l'armée, qui sont les opérationnels, et de voir une partie de l'armée, une partie de leurs anciens, une partie de leurs généraux se politiser, s'idéologiser, appuyer un gouvernement qui a ridiculisé le Brésil, c'est ainsi qu'on le voit dans l'armée, il a ridiculisé le Brésil, il a marginalisé le Brésil, il a fait du Brésil un paria, après toutes ces années de promotion internationale, de promotion économique, de réussite, de prospérité, eh bien ça, il y a beaucoup de militaires qui ne sont pas enthousiasmés par M. Bolsonaro. Alors, il y a autre chose aussi qui, chez les militaires auxquels j'ai pu parler, ne les enthousiasme pas. C'est la politique des armes à feu. Et quand on parle de milices, quand on parle d'insurrection contre le résultat des élections, qui d'avance a été dénoncé comme frauduleux, si Bolsonaro n'est pas élu, eh bien, cette politique des armes à feu facilement diffusées, répandues, multipliées, les militaires qui veulent garder le monopole de la force légitime d'État n'en veulent pas. Ça, c'est un problème, cette prolifération des armes à feu et des milices qui pourrait déclencher des mouvements, des agitations ou des tentatives de coup d'État. Moi, à mon avis, connaissant un peu les militaires brésiliens, qui sont très institutionnels. Vous savez que dans la... c'est pas comme notre armée. Notre armée est très flexible. On peut monter très haut en venant de très bas. Dans l'armée brésilienne, un sous-officier ne devient jamais officier. C'est une armée très hiérarchisée, une armée très, très compartimentée. Eh bien, les militaires, s'il y a des agitations là, ils la réprimeront. Voilà. Bien sûr, alors vous me direz, il y a l'article 142 de la Constitution qui donne aux militaires un droit de, disons, de regard sur le bon usage de la Constitution. Mais s'il y a des tentatives de soulèvement pour Bolsonaro, je ne vois pas pourquoi il n'interviendrait pas.
Alors, voilà. J'avais plein d'autres questions, mais j'en choisis une. On l'a évoqué, l'agrobusiness, et pour poursuivre là-dessus, avec une réponse la plus courte possible, Juliette Dumont, mais est-ce que finalement la conscience environnementale va entrer dans le choix des électeurs brésiliens? On peut rappeler que la déforestation, c'est un quart de l'Amazonie qui serait irréversiblement détruit.
Alors, ces enjeux environnementaux sont présents chez beaucoup de Brésiliens, malheureusement assez absents dans le débat politique, hein, Alain Rouquet le rappelait, il n'y a pas de débat en ce moment. En revanche, ce qu'il y a, c'est une mobilisation notamment des communautés indigènes, des communautés quilombolas, et malgré Bolsonaro, il y a quand même toute une série de nouveaux mouvements sociaux qui, eux, sont très au fait et au cœur de ces préoccupations. Et il ne faut pas oublier qu'il y a non seulement les élections présidentielles, mais aussi les élections législatives et les élections dans les États. Et je parle notamment des communautés indigènes parce que l'environnement est au cœur de leur discours, de même que la défense de leur culture, mais il y a beaucoup de candidatures indigènes lors de ces législatives. Et l'on peut espérer qu'au-delà de cette campagne un peu atone opposant Lula et Bolsonaro, puissent émerger aussi de nouvelles figures sur la scène politique brésilienne, notamment au niveau local.
Merci, Juliette Dumont. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine, Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 et chercheuse au CREDA. Merci aussi à Lamia Walalou, journaliste spécialiste de l'Amérique latine, à Alain Rouquet, président de la Maison de l'Amérique latine à Paris, ancien ambassadeur de France, et Christophe Ventura, directeur de recherche à l'IRIS, en charge du programme Amérique latine et Caraïbes, géopolitique, était signé Marie-France Chatin et Bertrand Éclair au lieu unique à Nantes, Nathalie Laporte à Paris. Samedi prochain, nous serons à Toulon à l'occasion des rencontres stratégiques de la Méditerranée. À très bientôt.